Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
Bienvenue à toutes et à tous. Avec ma femme d'aujourd'hui, on va passer du cérébral pur à l'humain, le vrai. On y va pour les détails.
Média, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Inza Bentara, bonjour.
Bonjour, Yasmine Kalouani.
Merci beaucoup
d'être invitée et de recevoir ton invitation. Ça m'a fait super plaisir.
En tout cas, merci à toi. Merci à toi de l'avoir accepté. Et d'ailleurs, je t'ai envoyé un message très court sur LinkedIn. C'est que je suis tombée sur ton profil et j'ai vu en fait que tu avais une première expérience professionnelle, ensuite une seconde, ensuite tu es revenue à la première, ensuite tu es revenue à la seconde et ensuite tu as complètement changé puisque tu es sortie du monde de l'entreprise et des multinationales à celui de l'art-thérapie. Et en fait, j'ai écrit « on doit creuser tout ça ». Voilà, parce que ça m'a interpellée. Un parcours de 20 ans dans deux boîtes différentes, avec des allers-retours entre l'une et l'autre, pour enfin tout lâcher et aller vers autre chose. Puisqu'en fait, pendant ces 20 ans, tu étais dans la finance, le contrôle de gestion, le développement du capital humain, la transformation, le service client. Et puis aujourd'hui, tu es dans l'accompagnement de l'humain, te recentrer sur l'humain. Qu'est-ce qui s'est passé, Lélène Zaha ? Raconte-moi.
Alors, Zaha est née un 22 novembre 77, donc le chiffre 2 qui se répète déjà dans sa date de naissance à maintes reprises.
Ouais.
Elle fait effectivement 22 ans exactement en entreprise et c'est là où elle change encore de chemin. Et oui, elle a fait beaucoup d'allers-retours entre deux grands groupes. Même si les allers et les retours n'étaient jamais pour le même poste, n'étaient jamais pour les mêmes organisations, pour les mêmes enjeux. Mais il y a quelque chose en moi, qui aime le changement, qui aime bouger, apprendre quelque chose de nouveau. Mmh. Et une fameuse question qui a toujours animé mes départs d'une boîte à une autre, c'était « est-ce que je ne peux faire que ça ?»
Oui.
Le jour, Yasmine, où je me pose ce type de question, je sais que c'est le...
C'est la fin.
C'est la préparation d'un départ.
La
déconstruction. Oui.
Mais c'est magnifique. Alors, tu sais, j'ai envie de te poser tellement de questions. C'est magnifique parce que quand tu te poses la question, c'est que tu t'autorises le changement. Ce qui n'est pas facile pour les gens, en fait. On s'autorise rarement le changement parce qu'on parle souvent de cette fameuse zone de confort. Donc, j'aimerais bien que tu me dises comment tu gères, comment tu as géré, toi, ces changements à un moment où tu n'étais pas encore outillée, parce qu'aujourd'hui, tu es art-thérapeute. Tu accompagnes l'humain, notamment dans ces changements de cap. Mais toi, à ce moment-là, comment tu t'autorisais de faire un changement?
Merci déjà pour la question. Et je vais poser en même temps quelque chose pour les gens qui se sentent obligés de bouger, parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de pression aussi sur les réseaux, de sortir de sa zone de confort, de se renouveler, etc. Je dis, il y a des gens avec des tempéraments différents. Mon tempérament, pour les gens qui me connaissent, je suis une boule d'énergie, on m'appelle de busy bee. Donc, je suis quelqu'un qui déteste l'ennui, et qui, à cet âge-là, apprend à faire avec l'ennui. Donc, c'est aussi un naturel que de vouloir, une fois qu'on a maîtrisé quelque chose, on s'ennuie, on se demande « bon, est-ce que je vais faire juste répéter ça ?» Non, non, peut-être que j'ai intérêt à bouger à autre chose. Et sincèrement, je dis ça, c'est un naturel, parce que ça, c'est venu avant même que je sois outillée, avant même que je m'y mette un peu dans le domaine du développement personnel. Et c'est plus un niveau de routine qui s'installe et je suis inconfortable en tant que Nzaha avec ça. Donc je suis à l'écoute de ça. Est-ce que c'est une faculté naturelle? Est-ce que c'est un don de Dieu? Je ne saurais pas dire. Mais je sais que je ne peux pas supporter la monotonie, la répétition et j'ai envie de passer à plus. Et donc du coup, en écoutant cette question, j'ai sauté le pas, même si au début de ma carrière professionnelle, j'étais dans le besoin de travail, j'ai besoin de mon salaire. Mais je ne sais pas, il y avait comme une mouvance interne qui me disait « vas-y, saute le pas, qu'est-ce que tu perds ?» Au pire, tu vas revenir là où tu étais ou tu vas postuler et tu vas décrocher un job, similaire ou pareil. La vérité, je suis aussi, quand je dis le naturel, je suis personne qui fait parapente, parachutisme, qui a fait des ascensions, qui aime l'adrénaline. ça fait partie de mon ADN. Et instinctivement, j'ai été à l'écoute de ça et j'ai été à l'écoute de ce besoin d'aller se challenger. Par exemple, quand j'ai fait l'ascension tout près, je ne suis pas une grande sportive, mais je voulais à une certaine phase de ma vie, de me prouver que j'étais encore l'Anzara qui peut se dépasser. Mais ça c'est un besoin chez moi. Mm. De ces dépassements, on continue. Et je voudrais bien vraiment insister. Et c'est pas forcément un besoin pour tout le monde. Et pas tout le monde a besoin de sortir de sa zone de confort.
Absolument.
Même si les livres de développement personnel ne matraquent ça. Et je dis non. Il y a des phases. Il y a des phases, moi, en tant que femme, où j'étais beaucoup dans ça. Et il y a des phases où là, j'ai 48 ans, je suis plus dans l'accalmie, même si j'ai envie encore d'apprendre et de m'abreuver. Mais j'ai une envie où je me dis, calme-toi un peu, écoute ton nouveau rythme, etc. C'est pas que je vieillis, mais je suis à l'écoute que j'ai un corps qui a différentes phases, de la même façon que la femme, dans son cycle menstruel, bah, elle a des phases où elle est hyper active,
exact.
Où elle est hyper anxieuse, déprimée dans son coin, où elle est hyper performante, etc. Mm. Donc, je pense que c'est quelque chose de l'ordre de l'écouter le rythme. Et avant, j'étais dans d'écouter cet élan de dynamisme, de performance, de me challenger, de faire des nuits blanches, de travailler d'arrache-pied. Je suis une ex-work alcoholic, on va dire.
Okay.
J'étais une vraie addict. Une vraie addict du job. Tu ne pouvais pas rencontrer mes anciens patrons. Ils te disent, si tu veux la torturer, tu la ramènes pour une réunion à 8h du matin. Par contre, c'est elle qui va fermer la boîte. Mm. Parce que j'avais des horaires un peu fous. Mais j'adorais ça. Je kiffais ça. J'étais heureuse dans mon travail. J'étais heureuse d'accompagner. Et je me rends compte que j'ai toujours été dans l'accompagnement de l'humain à travers mes équipes, à travers mes collègues, etc. Et c'est juste que c'est des énergies différentes qui nous anime, et quand je m'ennuie, je dois bouger à autre chose.
Okay.
Je ne peux pas rester dans le même lieu.
Alors,
ça a été ça mon menteur.
Il y a aussi une question qui m'intéresse et qui intéresse aussi notre communauté, c'est en fait, tu es partie d'un premier job pour une autre entreprise, pour un autre groupe, et ensuite tu es revenue à ton premier groupe, et ensuite tu es revenue à ton deuxième groupe. Le retour en fait, partir d'un endroit, avoir une expérience, ou deux, ou trois, ça dépend des gens, et revenir. Toi, tu l'as vécu comment? Le retour, comment il se vit? Est-ce qu'on a des angoisses par rapport, des craintes, des appréhensions par rapport à revenir où j'étais?
Alors, le retour, avec le retour, il y a toujours des frustrations, parce qu'on croit retourner à un lieu qui était comme on l'a laissé et il a changé. Et en même temps, il y a, avec cette frustration, et je mets en polarité, il y a cet étonnement que les gens, qu'on voit dans les yeux des gens, qui voient ce changement en nous. Et que nous, on n'a pas encore réalisé, parce qu'on croit qu'on est toujours le même. Et donc, j'ai vécu ça un peu dans mes allées et retours, où les gens voyaient une autre version de moi et que moi, je n'étais pas encore consciente de ça. Et en même temps, je suis revenue dans des lieux, des entreprises où je croyais que c'était encore tel que j'ai laissé, mais bon, les choses ont évolué. Et donc, j'ai eu des frustrations et j'ai eu en même temps des choses qui m'ont plu.
Mais pourtant, pardon.
On n'est pas le même.
On n'est pas le même. Alors, pourtant, tu as fait l'expérience deux fois. C'est-à-dire que tu as quitté donc la boîte A pour la boîte B. Ensuite, tu es revenu à la boîte A et j'imagine que tu as vécu ces émotions-là. Et au lieu de quitter la boîte A pour une boîte C, tu es revenu à la boîte B. Donc, en fait, tu as revécu les mêmes émotions deux fois.
Absolument, absolument. Et ça s'est fait de manière, on va dire, inattendue déjà. Et ça s'est fait aussi toujours souvent dans le mois de septembre. Ça, je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais
ouais.
C'était des mouvements dans le mois de septembre. Après, j'estime qu'il y a quelque chose de l'ordre de la synchronicité, d'une sagesse divine que je ne saurais pas expliquer, mais il y avait une bonne raison pour tout. Et ce que je peux t'assurer, c'est que je suis revenue dans les mêmes entités, mais c'était jamais les mêmes entités parce que c'était des directions différentes, c'était des portefeuilles différents, c'était des responsabilités, des équipes complètement différentes. Par exemple, dans une boîte, j'étais partie en tant que project manager au niveau du support technique, mais 13 ans après, quand je reviens, j'ai décidé de revenir à cette même multinationale et intégrer, parce que j'intègre une direction complètement différente qui est la finance, qui n'a rien à voir en termes d'esprit avec ce que j'avais laissé il y a 13 ans, et c'était une de mes frustrations, parce que je suis revenue pas pour ce qui m'avait manqué un peu, mais finalement, quand je suis revenue, c'était une structure complètement différente, même si elle intégrait toujours une direction technique, etc. L'ANSA, Project Manager, elle n'est pas la même senior manager qui est venue chapeauter une grande direction avec un portefeuille immense, avec un périmètre à l'international. Ça a l'air comme ça sur LinkedIn, sur un CV, que c'est un aller-retour. Mm. Mais en fait, c'était des expériences complètement différentes. Et j'en tire aussi le fait que ça donne quand même une certaine... it empowers, d'une certaine façon, parce que on n'est pas tout à fait le nouveau, on est le nouveau qui a quand même des anciennes connaissances dans la boîte.
Oui.
Donc on a quand même des petits super pouvoirs qui vont avec nous,
des repères.
On sait plus ou moins comment c'est. Voilà, donc c'est comme si c'est un changement, mais c'est pas un total démarrage à zéro.
Oui.
C'est comme si je démarre avec une partie que je connais ou pas.
Alors, je comprends parfaitement. Dans tout ça, à quel moment est arrivée l'envie de sortir de tous ces groupes-là et de sortir carrément du salariat et passer à une forme d'entrepreneuriat, puisque l'art-thérapie, tu es à ton compte, tu accompagnes les gens, centré sur l'humain à 100%. Est-ce que d'abord, ça a commencé par toi, par un besoin de faire un travail personnel? Pourquoi je te pose la question? Parce que c'est souvent... l'expérience que j'ai eue avec les différentes femmes d'aujourd'hui que j'ai pu interviewer, c'est que d'abord c'était soi, aller à la découverte Absolument. De soi, et ensuite finalement on se dit, bah tiens, si ça m'a aidé, pourquoi ne pas aider les autres?
Absolument, ça a commencé par moi-même, dans la trentaine, donc 32 ans, 34 ans, j'ai déjà commencé à m'ouvrir à l'univers du développement personnel, alors qu'avant j'étais plongée, j'étais une femme de chiffres, très cérébrale, très rationnelle, donc me parler d'énergie, de développement personnel, pour moi c'était du foutage de gueule, je suis passée personnellement par une expérience qui m'a un peu brisé le cœur, et donc qui m'a poussée à dire, est-ce que je suis Wonder Woman qui continue toujours à afficher le sourire, etc. Ou est-ce que je suis en train de cumuler quelque chose qui pourrait se retourner contre moi? Et je pense à exactement à l'âge de 34 ans. Et c'est là où une amie me met en contact avec un kinésiologue. Et puis, une année après, ce kinésiologue, la première des choses qu'il va travailler avec moi, c'était le lâcher-prise. Je ne comprenais pas quand il me disait « lâcher ». Je ne comprenais pas. Donc, il travaille avec moi ce côté contrôle. Et moi, à l'époque, j'avais un poste de direction du contrôle. Donc, il me demandait limite l'impossible de lâcher le contrôle. Et donc, je découvre déjà la kinésiologie. Par la suite, on me fait rencontrer avec un énergéticien, Thierry, que je remercie s'il m'entend. Par la suite.
C'est quoi la kinésiologie?
La kinésiologie, alors comment la définir? En fait, on te fait des palpations de la main, par exemple, ou du pied, et on arrive à sonder s'il y a des émotions qui sont présentes en force. Ils ont leur code avec lequel, rien que nous touchant la main, rien qu'en lisant, par exemple, la différence quand je te parle et ils m'observaient, la distance entre mon cil et mon œil. Quand la distance était énorme entre mon cil et mon œil, il me disait, est-ce que tu peux descendre dans ton cœur? Il parlait doucement. Je me rendais compte que quand j'étais dans le mental, même mes cils étaient plus éloignés que de mes yeux. Il observait le nez, les narines, les lèvres. Enfin, il était vraiment, même quand il faisait par exemple bouger mon pied ou ma jambe, il pouvait senser que est-ce que je fais confiance à une main étrangère ou pas? Est-ce que je suis prête à lâcher ou pas? Est-ce que je veux faire le mouvement moi-même ou je veux me laisser aller et laisser quelqu'un d'autre faire le mouvement? Donc, c'était une des façons avec lesquelles il travaillait avec moi, le lâcher prise. Je ne suis pas experte, je ne suis pas formée en kinésiologie, mais peut-être un jour, je rajouterai ça à ma palette. Mais on va dire, ça va être enchaîné comme ça, kinésiologie, soins énergétiques, yoga, le yoga... Le, J'ai oublié le type de yoga que je faisais.
C'est pas grave. Donc,
mais ouais. c'était très transformateur. Le yoga, la respiration, le breathwork, et ça s'est enchaîné.
Et en fait, tu as tenu le coup parce que tu aurais pu lâcher, en fait, puisque tu étais quelqu'un de cérébral qui avait besoin de rester dans le cérébral, entre guillemets, professionnellement.
J'avais besoin de comprendre.
Ouais.
J'avais besoin de comprendre. Tu sais, dans la pyramide de Maslow, au début, on a envie de manger, d'avoir un bon salaire, d'avoir une voiture, d'avoir un appartement, le téléphone, le poste, la promotion. Et à un certain moment, bah, quand tout ça, c'est tout le matériel est assouvi, bah, on commence à chercher le sens. Pourquoi on fait ça? Est-ce que ça fait un sens? C'est venu aussi avec un certain nombre de temps où j'étais souvent malade. Une fois par mois, deux fois par mois, j'étais malade. Je commençais à consulter des médecins. Ils disaient, oui, tu as une petite vésicule, tu as une tension fragile, il te faut un petit amoureux. Et ces réponses-là des médecins ne me convenaient pas. Donc j'ai commencé ça m'a amené à entamer carrément une transition alimentaire où j'ai switché vers le healthy. J'ai commencé même à partager sur les réseaux le healthy, mais je te parle là, il y a 12 ans de ça ou plus. Et donc, du coup, c'était un changement dans l'assiette, un changement dans la qualité de l'accompagnement et une ouverture à quelque chose d'autre.
Et le burn-out, il est arrivé à quel moment ?
Alors, le burn-out, je pense que je n'ai jamais osé affronter ce mot burn-out ou me reconnaître en tant que... Mais j'ai certainement passé des burn-out. Et ma naturopathe, elle me disait, Nza, il faut que tu arrêtes. Et je lui disais non, je ne peux pas m'arrêter. Et elle me disait, ce que tu fais, c'est du dopage, ça. Parce que j'étais dans l'acupression, le reculothérapie, les fleurs de Bac, les soins naturopathiques. Je pouvais être capable d'avoir deux soins par semaine, mais être bien dans mes baskets et continuer.
Et continuer, ouais. C'est pour ça qu'elle te disait, c'est du dopage, en fait.
Inadmissible. Donc, je pense que, quelque part, j'ai dû traverser un burn-out. Directement, indirectement. Est-ce que j'étais à l'époque capable de le conscientiser, de le nommer? Non. Non, je ne pense pas. Parce qu'au fond de moi, il y a une nana qui adore la performance et qui considérait que se sentir mal est une vulnérabilité, est une faiblesse.
Oui.
Et c'est ce chemin vers l'art thérapie qui est la thérapie de manière générale, l'hypnose, etc., qui m'a confrontée à ça, plus le yoga kundalini, c'est vrai, le yoga kundalini aussi m'a confrontée à ma réalité que j'étais femme et j'étais pas un homme. Et c'est là où je me suis rendu compte que j'ai passé beaucoup de temps à vouloir ressembler à un homme, à vouloir jouer dans le règne des hommes. Et Dieu sait, j'étais toujours dans des comités de direction à majorité hommes. Je voulais avoir leur code et agir comme eux pour pouvoir les dépasser. Le yoga kundalini...
Et ça fatigue, en fait. Ça fatigue et on n'y arrive
pas,
je pense.
C'est pas mon énergie.
Et oui, parce qu'au final, on ne va même pas y arriver, je pense.
Ben oui. On ne respecte pas notre rythme.
Ouais.
C'est comme si dire un homme va me battre sur le terrain de l'intuition. Non, moi femme, j'ai une intuition que Dieu m'a donnée et qui me donne une force. Et lui, il a la combativité et sur laquelle je peux pas rivaliser avec lui. Donc chacun de nous a son terrain. Comment on fait pour coexister ensemble et co-créer ensemble? Et moi, j'ai passé une bonne partie de ma vie dans la confrontation avec l'homme. Donc, cette révélation-là aussi, ça m'a beaucoup fait accepter que ma vulnérabilité pouvait être une force. Moi, les gens qui ont travaillé avec moi, très peu ont pu voir mes larmes au milieu du travail. Et c'est pendant les dernières années que j'ai commencé à être OK avec ça et à ne pas masquer mon anxiété. Mais beaucoup de gens, ils vont te dire, j'ai même encore un trophée, merci Nza pour ton éternel sourire et ton éternel support. C'est comme ça que les gens me voyaient. Mais moi, à l'intérieur, je pouvais être décomposée en 1000 morceaux. Mais est-ce que moi, j'autorisais les gens à voir ça? Non. Parce que je considérais que la vulnérabilité était une faiblesse.
Mais est-ce
qu'elle, encore une fois.
Mais est-ce qu'on peut la montrer en milieu professionnel, justement?
Bien sûr. Et tu sais, par exemple, durant ma dernière expérience professionnelle multinationale, je suis passée par pratiquement un tourbillon de 3 ans de réorganisation. Réorganisation, on doit réduire des effectifs, on est challengé, c'est difficile pour les équipes. Les gens, ils voyaient en moi la financière, la dure, celle qui n'a pas d'âme peut-être et qui est là pour faire son job de financière. Et oui, on va cater, on va faire ça. Je me rappelle un jour, j'étais en weekly avec mon équipe, j'ai craqué et j'ai dit, et moi aussi je suis vulnérable à ça, moi aussi je suis affectée par ça, etc. Et je me rappelle, il y avait deux larmes qui en coulaient. Je peux te dire, Yasmine, que l'attitude de mon équipe a complètement changé. C'est comme s'ils l'ont vu en moi, un être humain. Et c'est comme si avant, je ne les autorisais pas à voir l'être humain. Je croyais, en invitant à déjeuner, en faisant des team building, etc., que c'était suffisant. Et l'être humain qui travaille avec nous, il a besoin de voir une part de notre vulnérabilité pour croire qu'il est comme nous, qu'on est comme lui, qu'il peut se projeter en nous, qu'il peut davantage faire confiance.
Ouais.
Et c'est de s'autoriser à dire, moi aussi je peux avoir mes moments de faiblesse, et de s'autoriser aussi des fois de dire, et tu sais, quand tu m'as dit ça, ça m'a vraiment affectée. Je suis contente de voir cet élan, on commence à, même si c'est un peu trendy maintenant, mais c'est ok, ça commence toujours par une trend et on finit par toucher le fond de la chose, etc.
Absolument.
Et la santé mentale, encore une fois, pour moi, c'est un sujet que j'affectionne beaucoup, pour l'avoir vécu, pour avoir passé plusieurs phases. C'est pas un luxe, c'est vraiment un levier de performance. Et j'en fais un cheval de bataille aujourd'hui, parce que pas qu'à travers l'art thérapie, à travers l'art thérapie, je me suis formée aussi sur le coaching, sur plein d'autres choses à côté. Et je dis que l'entreprise a besoin du well-being pour la prévention des risques de prix psychosociaux qui coûtent énormément aux entreprises, mais malheureusement, ils ne faisaient pas partie de mes tableaux de bord.
Nzeha Mentara, c'était un plaisir de discuter avec toi.
Merci pour tout ce que tu fais, Yasmine Khalwani, pour les femmes, à travers tes podcasts, à travers ta présence sur les réseaux.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Média et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Média Podcast et les plateformes de podcast habituelles.